pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Va que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. J'ai fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. J'ai fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Alors, on a beaucoup de monde autour de la table et c'est plutôt sympa. Nous avons Joël.
Salut.
Nous avons Nathalie.
Salut.
Nous avons Mathilde.
Salut.
Nous avons Alex.
Salut tout le monde.
Arthur.
Salut.
Nous avons Serge au bocal, accompagné de Greg.
Salut à tous et à toutes.
Salut.
Et Sylvia qui vous salue. Heureusement qu'il n'y a pas l'écran parce que vous avez loupé ma dégaine avec le casque sur la tête et deux énergumènes en face de moi qui se moquaient. Et il a fallu que je me contrôle à ne pas partir en fou rire. On va quand même passer au déroulement de l'émission. Moi, je dis tout à l'antenne. On va passer au déroulement de l'émission et c'est Alex qui va s'en charger.
Alors, juste avant ça, on va rappeler les contacts. Pour nous appeler pendant l'émission, c'est au 01 40 05 06 10. Pour nous appeler tout le reste de la semaine, c'est au 07 52 40 22 48. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-fpp. Et on est aussi sur tout un tas de réseaux sociaux. Faut pas hésiter à nous chercher sur Insta, Facebook, etc. Et du coup, donc, pour cette émission, déjà, on va commencer par parler de Condé-sur-Sarthe. Donc, c'est une tôle dont on parle souvent. Une des tôles les plus sécuritaires de France, où les matons, ils ont encore fait n'importe quoi là, ces derniers jours. On va revenir un peu donc, sur le blocage. Après ça, on va avoir un appel du centre de rétention de Vincennes. Donc, c'est une prison pour sans-papiers en Île-de-France, où il y a eu des mouvements collectifs de résistance contre des expulsions cette semaine. On va essayer de revenir un peu là-dessus et sur la répression avec un prisonnier de là-bas. Et un peu plus tard dans l'émission, on aura un appel d'un des inculpés du procès de Bure. Et donc Bure, c'est un site d'enfouissement de déchets nucléaires où il y a beaucoup, beaucoup de répression depuis 4 ans, tout un tas de gens qui ont fait de la détention provisoire, etc., etc. Et là, on va revenir avec une personne qui a participé un peu à la lutte contre tout ça, quoi. Et donc, pour commencer, bah, on voudrait revenir un peu sur ce blocage de Mâton à Condé-sur-Sarthe. Expliquer un peu ce que c'est Condé, peut-être.
Condé, c'est la prison la plus sécuritaire de France, qui a été créée en 2013, si ma mémoire est bonne. Et donc, où les gars, à chaque déplacement, sont entourés de entre 5 et 7 surveillants. Pour aller où que ce soit. Voilà. Je dis ça parce que il y a quand même, enfin, il y a eu une, je sais pas comment on va dire, une prise de parole dans cette détention ces derniers jours. Un prisonnier a pour eux pris en otage des employés de l'administration pénitentiaire. Mais pour nous, c'est une prise de parole parce que chaque acte a une douleur et une souffrance derrière. Et je ne connais pas la sienne. Voilà, bon, bref.
Ouais, puis nous on n'est pas là pour juger la personne. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est-à-dire, je crois que c'est là, il y a deux jours le matin. Il y a un communiqué qui sort d'un syndicat de Mâton et qui explique qu'il y a soi-disant une prise d'otage qui est en cours à l'intérieur, quoi. Et en fait, le premier truc qui est mis en avant, c'est le casier judiciaire de la personne. Exactement. Qui est condamnée pour des trucs où en fait, il n'y a personne qui a spécialement envie de se sentir solidaire, quoi. Mais par contre, en fait, c'est dégueulasse de faire ça parce que
sa photo.
Et sa photo, quoi. Et en plus, en fait, et son nom, évidemment, quoi. Et en fait, juste sa prise d'otage, elle n'a rien à voir avec son truc de condamnation. Sa prise d'otage, elle est contre le fait qu'on le mette à Condé-sur-Sarthe. Et Condé-sur-Sarthe, ce que tu disais, c'est une des tôles les plus sécuritaires de France. C'est une tôle qui est vraiment faite pour briser les gens. C'est plusieurs quartiers différents d'isolement. Il y a un QPR, un quartier pour les radicaliser. Il y a d'autres QI.
Alors, leur politique, en fait, c'est qu'au bout de 5 ans, réinsérable pour rentrer dans une centrale, pas un centre de détention, ce qui est totalement différent. T'es réinsérable pour rentrer dans une centrale dite normale.
Normale.
Voilà. Et donc comment ils procèdent ? Ils procèdent à ce que moi j'appelle un dressage. Voilà. Ils essayent de dresser les gens avec des tortures, comment dire, des tortures légales aux yeux de l'État, tout simplement. Voilà, donc en appuyant sur les liens familiaux, en appuyant parce que la plupart des gens sont pas d'Alençon, tu vois, donc c'est-à-dire que quand ils sont placés là-bas, il n'y a pas de rapprochement familial ils sont pas passés
ils sont pas placés.
Voilà, si t'es à 600 km et qu'ils estiment que ta famille est à 600 km, ils s'en foutent. Ils te placeront à Condé-sur-Sarthe, tu vois, et déjà, donc ce droit-là, il n'existe plus. Voilà, et c'est plein de choses comme ça qui s'accumulent où les gars, arrivent à un moment, ils ont moins de parloirs que les autres, ils ont moins de linge, voilà, et ils ne voient pas leurs enfants. Donc, arrive un moment, les neurones, ils se touchent et tu réagis parce que sinon, tu meurs. Voilà.
Et c'est aussi une des seules manières de sortir de Condé-sur-Sarthe. En fait, c'est que les trois quarts des transferts qui ont eu lieu ces dernières années, c'est des transferts disciplinaires. Et donc, parce qu'il y a tout un délire là-bas où c'est des syndicats de matons d'extrême droite, enfin pas mal de matons aussi organisés, hyper faf, qui eux, en fait, pour justifier tout leur armement, etc., mettent en permanence la pression sur les prisonniers qui sont enfermés là-bas, en espérant des réactions, quoi. Et dès que quelqu'un craque, réagit, parce que normal, dans la vie, tu peux pas tout le temps te faire humilier, quoi, eux, ils en profitent pour porter plainte, toucher un 13e mois et justifier la demande de nouveau, soit gilet par balle, gilet par couteau, enfin, ça dépend c'est quoi le trip du moment, quoi, mais a priori tout ça ils l'ont obtenu.
D'ailleurs c'est pas un hasard, une des personnes qui intervenait tout le temps dans les médias pendant la prise d'otage, c'était le procureur d'Alençon. Ouais. Ça montre bien sur quel bise ils font en fait leur taf, les procureurs des petites villes comme ça, c'est en fait sur la tôle à côté.
Alors là, les surveillants sont en train d'appeler, eux ils appellent ça un blocage du centre de pénitentiaire. Moi j'appelle ça une prise d'otage des familles et nous on appelle ça une prise d'otage des familles, des prisonniers, où faut pas oublier que au dernier blocage d'Alençon, qui a duré 3 semaines, il me semble bien, ils avaient éteint l'eau, l'électricité, et c'était les iris qui avaient été prendre la place de ces surveillants qui refusaient de reprendre leur poste. Et il y avait eu justement des vidéos qui avaient été sorties où les prisonniers ont craqué et où ils expliquaient leur calvaire à l'intérieur. Et là, ils sont en plein blocage. Et la première chose à laquelle j'ai pensé quand ils ont annoncé cette prise de parole à Condé, c'est que ça allait être l'opportunité encore pour eux de manifester et de demander d'une part des armes, parce que voilà, c'est ce qu'ils veulent, en fait.
Ouais, ils veulent des pistolets à impulsion électrique, notamment.
Voilà. Pourquoi faire ? Ouais, c'est, tu vois le truc ?
Et face à ça, les prisonniers, ils sont pas... Face à ça, les prisonniers, ils sont pas, ils se cachent pas. C'est-à-dire qu'après, derrière, ils ont fait des blocages de cours de promenade. Il y a eu un blocage de cours de promenade ce matin, hier matin.
Hier matin sûr, ce matin voilà. Certainement.
Mais et voilà, en disant non, c'est pas possible quoi. Voilà. Donc c'est à l'intérieur, les gens ils savent très bien ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer, et la pression sont en train de mettre les matons. Et il y a un peu un truc qui est nouveau aussi par rapport à il y a 3 ans, quand il y avait eu ce blocage qui était très très long. C'est depuis, il y a un nouveau maire. Donc on a souvent décrit en fait un peu la mafia qu'il y avait entre les surveillants et puis les procs et les juges, et comment en fait ils se faisaient leur 13e mois, et comment c'était un fonctionnement bien institutionnalisé. Et donc là, il y a un nouvel acteur dans cette mafia. C'est le maire d'Alençon, qui est en fait un ancien directeur de prison. Donc vu qu'en fait ils ont ramené énormément de matons et tout ça, la population a changé. Et donc quand tu as un ancien directeur de prison qui se présente à une élection municipale, bien sûr il est élu, parce qu'en fait la ville est composée principalement de matons maintenant.
Ouais. Voilà. Pour rappel, donc il y a les matons de Condé-sur-Sarthe qui habitent à Alençon, mais il y a aussi les matons d'Argentan, le CD qui est pas loin, qui est à moins d'une heure d'Alençon.
Et c'est l'ancien directeur de Fresnes et d'une autre tôle, voilà. Et lui, il n'arrête pas de parler là aussi dans les médias en disant il faut qu'il y ait une expertise, tout ça, et voilà. Donc c'est encore un nouvel acteur dans cette petite mafia, et ça marche très bien, quoi. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique et le pouvoir administratif qui se réunit pour briser des personnes à l'intérieur, quoi.
Et je voudrais dire aussi, étant infiltrée, comme je le dis souvent, sur leurs groupes privés Facebook et réseaux sociaux, alors ils s'amusent à poser des photos, tu vois, du plus beau feu, du plus beau pneu qui brûle, de la plus belle palette qui brûle. Laisse tomber, c'est vraiment la fête, laisse tomber. Et pendant ce temps-là, y a des familles qui font 800 km ou je ne sais pas combien de bornes, qui ont perdu une journée de travail, une nuit d'hôtel. Il y a des enfants qui ont attendu des fois des mois pour aller voir leur papa là-bas. Et c'est encore, ça je le dis souvent, c'est encore à nous, familles, de faire un travail psychologique à l'enfant, d'expliquer pourquoi il ne peut pas aller voir son papa en détention. Et pendant ce temps-là, ces mecs-là ou ces meufs-là, ils brûlent des pneus et ils sont joyeux de leur inhumanisme. Ça se dit ?
C'est clair, mais... En tout cas, voilà, faudra qu'on soit vraiment hyper attentif à ce qui se passe à Condé-sur-Sarthe. On l'a toujours été. On sait qu'il y a toujours des moments où, la tension elle remonte et tout. Et donc, c'est vraiment dans ce genre de moment où il faut que l'extérieur aussi, on continue à relayer en fait. Voilà, quand il y a un blocage de promenade, alors que les matons ils sont en train de bloquer la tôle, c'est pas rien. C'est un risque qu'ils prennent. Ils savent très bien, parce qu'il y a 3 ans, ils ont eu le droit aux iris pendant 3 semaines dans la tôle, avec des gens qui ont été tabassés et qui le racontaient très bien dans ces vidéos. Donc ils savent très bien le risque qu'ils prennent quand ils font ce blocage là et donc à l'extérieur il faut qu'on fasse relayer au maximum ce truc. Donc on continuera à en parler et à relayer ça la semaine prochaine et les semaines à venir. Mais faut pas que ça soit seulement que nous, en fait. Faut vraiment que tout l'extérieur, voilà. Et juste un dernier truc, c'est l'occasion de reparler du bouquin qu'on a sorti avec les éditions du Bout de la Ville. Ce que demandait initialement ce prisonnier, c'était un aménagement de peine. Voilà, et donc c'est ces peines infinies voilà, qui s'appliquent. Et donc lui, c'est le seul moyen qu'il avait pour pouvoir demander son aménagement de peine. Quoi. Voilà, ça faisait partie de ses revendications.
Je suis pas certain, je crois qu'il demandait un raccourcissement de sa rétention de sûreté plutôt.
Ouais, c'est ça. Ouais, sa période de sûreté. Mais donc,
non, mais parce qu'il n'est pas encore en période aménageable du tout. Il est en début de peine.
Ouais. En tout cas, ce ne serait pas la première fois que ça arrive où des prisonniers, justement. Manifestent leur mécontentement de la sorte pour pouvoir obtenir quelque chose et pouvoir par exemple avoir un rapprochement familial quel que soit c'est vraiment mais là où c'est important et que c'était très pointilleux de le dire c'est que faut vraiment être à bout et ces mecs là après vont être jugés et vont prendre entre 8 parfois 15 ans en plus sur leur peine parce que ils ont tenté de faire valoir leurs droits par la voie normale et qu'au bout d'un moment ben quand tu t'as pas le droit à ton droit ben tu franchis la ligne quoi enfin moi j'appelle pas ça franchir la ligne en vrai parce que
puisque disait Alex c'est à dire que il y a un certain qui vraiment accepte de prendre 8 ans 10 ans de plus mais à être transféré et à partir de la tôle parce que ça est vraiment invivable quoi.
Ouais, on va peut-être passer un petit coup de musique avant de continuer sur les histoires là de résistance collective à Vincennes.
Hey, libérez la rue là. T'es Mac 530, je t'en aurai sans casse carré. Prends deux calibres sur moi au cas où l'autre s'en aille. Mac 530, je t'en annonce en casse-caraille. Je prends deux calibres sur moi au cas où l'autre s'arraille. L'amitié, ça tient sur un fil ou une paire de seins. J'espère que t'as compris, j'ai pas de faire de dessin. Fils de, en bas c'est la guerre, j'en ai vu des traits. Moi je suis torse nu, je peux pas retourner ma veste. Je fais la filtrer. Y'a tout qui monte à la tête, je vois des infiltrés. Y'a des reflets sur toutes les fenêtres. Je prépare un gros casque comme dans Hit pour faire ma promo. Pour le platin, ça sort le plomo. Fils de, on a traîné la nuit pour faire de l'euro. Charge du studio, j'ai fait des heureux. Ça sent le roro, le frein à main est cassé. On arrive en puissance, capuché A4 dans un classé. On va tout froisser, cette année on va tout prendre. Si t'as pas vécu nos vies, tu pourras jamais nous comprendre. Il me faut un petit peu pour gérer toutes mes affaires. Si je retourne devant la juge, c'est pour des années fermes. J'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la verte. On détaille des poches, 50, si t'en veux, tu passes à la berne. Casse un tour, les condés veulent le four. Au lieu de péter le permis, ils préfèrent prendre les sous. Garde à vue, j'ai rien vu, rien entendu, moi. LOPJ augmente le son, j'passe dans la tueur à voix. J'relance ma puce, j'ai pas besoin d'être validé. J'monte sur la scène, j'allume le feu comme Hallyday. Bang bang, j'ai touché la cible, on vise pas les pieds. On connaît bien la rue et sa mentalité. J'relance ma puce, j'ai pas besoin d'être validé. J'monte sur la scène, j'allume le feu comme Hallyday. J'ai touché la cible, on vise pas les pieds. On connaît bien la rue et sa mentalité. J'relance ma puce, j'ai pas besoin d'être validé. J'monte sur la scène, j'allume le feu comme Hallyday. J'ai touché la cible, on vise pas les pieds. On connaît bien la rue et sa mentalité. J'arrive en 4x4, ils ont pas senti le get-get. H24, j'suis dans le hall si tu veux casser ton tête-tête. Y'a que de la bonne frappe, t'inquiète, on a les contacts. J'compte plus les sous, j'ai 2-3 comptables. Week-end en GT, la semaine ça mange des plates-pattes. Aux arrivants, t'as pas un kit-kat. Tu parles de TP, faut le fond de commerce du pack-up. J'peux te laisser tout nu comme au Cap-Dog. J'fais des trucs sales pour un plat des ventres. C'est pas pour faire la mala ou m'acheter des montres. On se pète en Espagne, à la cité y'a trop de demandes. 15 ans les pequeños ils veulent reprendre le monde. On fait la guerre avant la paix. J'suis parano, j'mets mon secours sur le canapé. Apparemment j'sais pas rapper. J't'allume ta mère même si tu fais du karaté. J'veux pas que tu meurs, ça serait trop facile. J'vais te rendre la vie compliquée. Comme ce mec au mitard qui se fait couiller son briquet dans la rue. Et les sales histoires on est souvent impliqués. Reste sur la défensive un peu comme j'ai appliqué. J'fais les gains, cette année c'est la mienne. Libérer les rails, de l'enterre à freine. Ça fume les chouinettes, better details. On est partout même dans les veines de Killian. Tu vois le drapeau mais on joue pas la finale. J'relance ma puce, j'ai pas besoin d'être validé. J'monte sur la scène, j'allume le feu comme Hallyday. Bang bang, j'ai touché la cible, on vise pas les pieds. On connaît bien la rue et sa mentalité. J'relance ma puce, j'ai pas besoin d'être validé. J'monte sur la scène, j'allume le feu comme Hallyday. J'ai touché la cible, on vise pas les pieds. On connaît bien la rue et sa mentalité. J'relance ma puce, j'ai pas besoin d'être validé. J'monte sur la scène, j'allume le feu comme Hallyday. J'ai touché la cible, on vise pas les pieds. On connaît bien la rue et sa mentalité.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Et pour nous appeler sur le portable, j'ai pas envie de le dire maintenant. Donc je vais vous laisser le faire.
Oh la vieille excuse bidon quoi.
Du coup, c'est le 07 52 40 22 48.
Oui, mais je m'appelle
c'est
pas.
C'est comme ça que
mec.
Tu fais la grève, Sylvia ?
Je m'appelle pas. Je connais pas mon numéro par cœur. Je ne m'appelle pas.
Et voilà. Du coup, là, on va bientôt recevoir un appel d'un prisonnier du centre de rétention de Vincennes. Et peut-être avant, juste, on va expliquer un peu ce que c'est cette tôle. C'est-à-dire, donc, c'est une tôle pour sans-papiers qui est située au bout du bois de Vincennes. Donc, c'est dans une banlieue riche quoi, de Paris. Et en fait, c'est coincé entre une école de keufs et une école de chiens de keufs. Et il y a 120 personnes qui peuvent être enfermées là-bas et être expulsées à tout moment. Et donc, en fait, c'est vraiment perdu dans le bois, quoi. C'est en face de l'hippodrome de Vincennes. Il y a tout le temps des keufs qui traînent autour et qui font des gardes. Et les gars, ils sont enfermés là-bas. Nous, on a eu beaucoup d'appels, en fait, de cette tôle depuis 2 ans. Et pas mal aussi pour raconter un peu ce que c'est. Les moments où les keufs, ils ont des impératifs pour expulser plus. Et du coup, ils augmentent la pression à l'intérieur, quoi. Et en fait, on est un peu dans ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a eu toute la période Covid où les keufs et la préfecture, elles devaient jouer par rapport aux acceptations des différents pays, etc. etc. Et de plus en plus, donc il y avait tout un délire de résistance autour du test PCR pour éviter de se faire expulser, donc, parce qu'il y a beaucoup de pays qui demandaient un test PCR pour accepter une expulsion. Et en fait, de plus en plus, il y a des pays qui sont en train d'accepter des expulsions sans test PCR. C'est le cas récemment du Mali. Et en fait, ça veut dire qu'il y a des personnes là qui sont enfermées depuis quelques mois, qui ont refusé des tests PCR, qui ont pris 3 mois de centre de rétention, donc parce que c'est la durée maximale de rétention, qui ont pris une garde à vue. Des fois, ils ont été renvoyés pour 3 mois au CRA. Si c'est pas au CRA, ils ont pris de la tôle, ils ont été renvoyés en CRA. Et en fait, il y a eu des espèces de cycles comme ça, infinis, jusqu'à ce que les négociations elles se terminent entre les pays, quoi. Donc là, on parle des Maliens. C'était le cas, par exemple, des Guinéens aussi avant le coup d'État. Et donc en fait, mais ça peut arriver à tout moment demain si le rapport de force qu'ils sont en train de mettre avec l'Algérie, par exemple, ça marche quoi. C'est, et du coup, ce que je voulais dire, donc, c'est que là en fait, on est dans une période un peu compliquée et parce que les expulsions elles sont en train de reprendre en nombre quoi. Et ce qui se passe, c'est que donc en fait donc voilà, pardon désolé, je me suis perdu. En gros donc là depuis 2 ans, les gens ils étaient en train de lutter sur, enfin depuis 1 an et demi là, le Covid, les gens ils étaient en train de lutter sur l'allongement de la rétention et sur le fait que les centres de rétention c'était de plus en plus des tôles où il n'y avait même pas de possibilité d'être expulsé, juste t'étais enfermé là parce que t'étais étranger et souvent parce que t'étais étranger et que tu sortais de tôle quoi. Et de plus en plus donc la question des expulsions, bah ça revient et les gens ils résistent face à ça quoi. Et donc c'est à nouveau devenu un truc un peu central dans les luttes à l'intérieur. Et ce qui s'est passé, c'est que là, il y a quelques jours, il y a des prisonniers à Vincennes, une douzaine, qui ont résisté collectivement face à une expulsion. Et nous, donc, depuis 2 ans, on essaye de donner la parole, ou en tout cas de relayer les expériences quand il y a des résistances collectives face aux expulsions. Et donc là, on va vous lire le témoignage de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé. On devait recevoir un appel, mais apparemment, il n'est pas là, quoi. Et du coup, en attendant, on va vous lire le témoignage qui est sur Abba Lekra de tout ça.
Un pote tunisien devait être expulsé. Alors, on est rentré à 11 dans la chambre, on a fait semblant de lui dire au revoir et on a bloqué la porte. On était 12, ils ont essayé de forcer la porte avec un gros truc en s'y mettant à 3, mais ça n'a pas marché. Pendant une heure, ça n'a pas marché, ils ne pouvaient pas ouvrir la porte. Alors, ils ont appelé une brigade spéciale, les BRI, ceux qui sont cagoulés. Ils ont utilisé une machine spéciale, une machine électrique qui casse les murs. Ils ne pouvaient pas prendre une meuleuse parce que nous, on était juste derrière, donc ça risquait de blesser des gens. Nous, on s'est bien marrés. On les faisait chier, on chantait pour rigoler. « Donnez-nous 1 million d'euros et on vous donne Monsieur T », la personne qui devait être expulsée. « Ramenez-nous des pizzas et des frites et on vous donne Monsieur T. Donnez-nous les papiers et on vous donne Monsieur T. » Alors, ils ont pété des plombs. Alors, c'était comme un film. Ils ont cassé la porte. Les mecs cagoulés nous ont fait sortir et ils ont utilisé le taser. Les gens se sont fait taser. Ils nous ont mis les serflex. Moi, ils m'ont traîné comme un chien. D'abord, ils m'ont ramené au commissariat. Le médecin a dit que mon état était incompatible avec la garde à vue et ils ont dû me ramener à l'hôpital pour faire un scanner à la gorge car ils m'ont étranglé. À l'hôpital, ils ont dit qu'ils pouvaient me ramener au commissariat. Et là, ils m'ont fait la misère. Ils m'ont laissé en caleçon et sans couverture pendant plus de 10 heures. Ils m'ont frappé, j'ai des traces de coups. Normalement, c'est un vice de procédure quand les flics te frappent. Là, il se passe rien. J'ai pas eu de jour d'ITT. Les flics du transfert entre le commissariat et le TGI m'ont frappé. J'ai montré mes blessures au procureur. J'ai soulevé mon t-shirt. Je suis sûr qu'il a fait semblant de noter, mais qu'il s'en fout, car j'ai pas eu de jour d'ITT. On était 6 au commissariat du 20e et 6 au commissariat du 12. Ça, c'était vendredi matin jusqu'à samedi. Et dimanche, ils nous ont ramenés au tribunal à Porte de Clichy. On a tous eu un rappel à la loi, sauf le mec qui devait être expulsé, qui est parti en prison en attendant le procès. Il a un avocat. Le jugement, c'était lundi après-midi. Apparemment, il est sorti libre avec un rappel à la loi. Moi, ils m'ont changé de bâtiment. On est 6 au bâtiment 1 maintenant, et les 6 autres, je sais pas. Le commandant du CRA, donc le centre de rétention administrative, il est venu nous voir ici hier, nous faire peur. Nous dire que notre pote avait pris 2 ans de prison, mais c'est pas vrai. C'est un mensonge. Le procès n'avait pas encore eu lieu. Demain, j'ai un vol. Alors, j'ai pas eu de test. Normalement, ils ne peuvent pas mettre d'avion sans test. Moi, j'ai refusé.
Bah voilà.
C'est quand même incroyable que ce soit la BRI qui se soit déplacée, parce que c'est la brigade de recherche et d'intervention dangereuse. Il faut rappeler que c'est des gens qui sont dans ce centre de rétention parce qu'ils n'ont pas leurs papiers. Il faut arrêter, quoi. La BRI, ils sont surentraînés. Ils sont pas loin du raid, hein, quand même. Et c'est aberrant que
Ouais, c'est comme dans certaines révoltes. Il y a les brigades cynotechniques qui interviennent. Bah, à Vincennes, typiquement, puisqu'il y a une école de chiens de keuf, mais... À Marseille l'année dernière pendant l'incendie c'était pareil. Et enfin ouais faut arrêter.
En France c'est open bar là-bas, c'est celui qui peut intervenir il intervient, c'est quand
Exactement.
Même aberrant. C'est hyper grave.
Ouais, mais c'est quand même une belle action qui s'est passée. En tout cas je pense qu'il faut la relayer au maximum. Il faut en parler dans les autres centres de rétention. À ce qui paraît le gars en question il est libre et voilà on espère qu'il est bien loin de tout ça.
C'est un bel élan de solidarité et appuyer sur le fait que ils sont pas rentrés dans le délire du directeur quand il leur a expliqué que ce jeune homme avait pris 2 ans alors que le jugement n'était pas encore passé. Ils ont très bien compris qu'en vrai ils n'étaient pas là pour nous aider et que il faut pas les croire. En vrai ils sont là pour nous faire battre les uns avec les autres et de tuer cette solidarité qui les dérange. Continuez, persister, lâchez rien. Bravo à vous, vraiment bravo à vous.
Ouais, et là c'est une histoire qui est racontée, mais en fait toutes les personnes qui ont participé à ça ont vécu la même chose, c'est-à-dire une garde à vue hyper violente, des keufs qui depuis ont le seum et continuent de mettre la pression. Il y a à peu près 2 ans, il y a un bâtiment qui a brûlé à Vincennes, je crois que c'était en février 2020, il y a un bâtiment qui a brûlé à Vincennes suite à, en fait, ça faisait plusieurs semaines que les keufs ils faisaient monter la pression et qu'ils essayaient différentes techniques de torture psychologique pour faire craquer les gens et que les gens ils acceptent leur expulsion, quoi. Et donc ça a duré plusieurs semaines avec les alarmes incendie et l'eau qui est déclenchée la nuit, des réveils avec le micro là en permanence, etc. Et donc c'est monté en tension. En fait, c'est un peu comme on racontait là à Condé, hein, c'est-à-dire les gens ils ont tout tenté, tout ça, etc. Et à la fin, il y a eu un incendie d'un bâtiment. Et donc c'est pareil, en fait, c'est une révolte collective où il n'y a personne qui a parlé après en garde à vue, où les gens ils ont été solidaires. Et la répression à l'époque, ça avait été d'essayer d'expulser au maximum, le plus violemment possible, les personnes. Nous, on avait eu des personnes à l'antenne ici qui avaient été concernées par ces tentatives, quoi. Et du coup, là, on souhaite beaucoup de force aux 11 autres qui sont encore au CRA de Vincennes.
Et bien évidemment, leur spécifier, parce que peut-être que peut-être que ces flics nous écoutent et qu'il est important de dire que on sait ce qui se passe à l'intérieur et que... Et que là, le mieux, c'est de les laisser parler, en fait.
Allô.
Donc, ils sont en ligne. Allô.
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Salut.
Oui, madame, bonjour.
Bonjour.
Ouais, du coup, en fait, on vient de lire un peu ce qui s'était passé il y a quelques jours, là, le moment de résistance collective.
Oui.
Est-ce que toi, tu crois que tu peux nous raconter un peu l'ambiance dans le CRA, là, depuis? Enfin, comment ça se passe pour vous?
Ouais, parce que suite à ça, en vrai, vous avez eu, vous, des
Madame. Mais les fréquences de la radio, c'est 106,3, c'est bien ça?
106,3, ouais.
Bah, parce que mes potes... ouais, je vais vous raconter, madame, parce que en fait, ici, ça se passe trop mal.
Et... Ils se vengent par rapport à cet élan de solidarité que vous avez eu à l'intérieur, en fait?
Comment?
Vous avez des pressions suite à cet élan de solidarité que vous avez eu ou pas?
Est-ce que j'ai des pressions de
Est-ce que la police à l'intérieur vous font payer ce qui s'est passé en fait quand vous avez eu cet élan de solidarité?
Bien sûr, ils nous font payer ça, bien sûr.
Qu'est-ce qu'ils vous font exactement?
Ils nous réveillent tous les jours à 5h du matin, je sais pas pourquoi. On mange toujours les mêmes plats. Je sais pas. La dernière fois, on était 12. On est parti 12 personnes en garde à vue. Pour rien, parce qu'il y avait un vol pour quelqu'un. Normalement, il doit faire le test PCR. Et ils n'ont pas fait le test PCR. Ils voulaient lui envoyer des forces. On est rentré pour lui dire au revoir. Ils nous ont ramené 12 personnes en garde à vue. On a fait 48 heures de garde à vue. Après, nous ont fait la misère en garde à vue, dormir en caleçon, je ne sais pas pourquoi. C'est le commandant du CRAD, Vincen, qui a dit aux policiers de nous faire la misère. Ils nous ont fait la misère, on a dormi en caleçon. Et normalement, madame...
C'est pas légal, normalement, tu aurais dû être habillée, vous n'auriez pas dû être en caleçon, ça c'est sûr et certain.
Oui, j'ai porté plainte parce que j'avais des coups. Et ils m'ont brisé la gorge, les policiers, je voulais poser plainte, ils m'ont donné aucun jour d'ETC. Alors si c'était quelqu'un d'autre, si c'était un policier ou quelqu'un d'autre, il aura donné au moins 15 jours d'ETC.
Complètement d'accord avec toi.
Comment, madame?
J'ai dit, je suis complètement d'accord avec toi.
Oui, madame, oui.
Et moi, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez d'autres camarades qui ont été blessés pendant la garde à vue? Et est-ce que depuis, vous avez reçu des soins?
J'ai des camarades qui sont blessés en garde à vue. J'ai des camarades qui sont blessés en garde à vue, madame. Moi, j'ai posé plainte. Normalement, je dois avoir au moins 5 jours d'ETT. Ils m'ont donné aucun jour d'ETT. J'ai demandé le certificat médical. Ils ne me l'ont pas donné. Ici, les gens, ils ont la gale. Donc, les policiers ils cachent le numéro, ils font pas leur travailler leur caméra, ils tapent les gens et voilà, ils respectent pas la loi. Et il y a des Algériens, il n'y a pas de vol pour eux. Ils sont là, je ne sais pas pourquoi, moi je suis Tunisien. Je ne sais pas pourquoi, madame. Et franchement, madame, ils nous font la misère. La France, normalement, c'est un pays de loi et liberté. Je vois pas aller où la liberté et aller où la loi. Posez-moi des questions, madame, comme ça je réponds. Parce que moi, je vais pas vous mentir, je mange beaucoup les médicaments, j'oublie, c'est pour ça. Posez-moi des questions, je vous raconte tout.
Moi, je me demandais, est-ce que l'ASFAM, elle a réagi à l'intérieur?
L'ASFAM, je suis rentré à l'hôtelière la voir, je lui ai demandé de voir mon avocate, commis d'office que j'ai eu en garde à vue, parce qu'elle a le certificat médical des coups, tout ça, et je n'étais pas compatible au garde à vue. Ils m'ont ramené au tric, là. Ils m'ont ramené à l'hôpital des gens qui sont en garde à vue. Ils m'ont ramené à l'hôpital des gens là qui sont. Ils m'ont ramené à l'hôpital des gens là qui sont pas compatibles là, en garde à vue. Je suis resté 6 heures. Ils m'ont fait un scanner à la gorge. Ils m'ont dit que ça va aller. Moi, j'ai essayé de retenir le numéro de policier qui m'a fait ça. J'ai pas réussi à l'enregistrer dans ma tête. Et madame, il y a des gens, ils ne leur font même pas le test, ils leur font des faux tests, ils les ramènent au bled. Madame.
Ouais, du coup, il y a beaucoup d'expulsions en ce moment à Vincennes.
Et normalement, madame, en ce moment, ils font quoi? Ils font des certificats médicaux. Ils font des certificats médicaux pour expulser les gens. Et ça, normalement, c'est pas la loi. Moi, je suis avec la loi, je suis pas contre la loi. Mais je suis avec la loi.
Ouais, ça c'est plus compliqué. Mais est-ce que, en ce moment, il y a beaucoup de personnes là qui prennent des vols à Vincennes?
On a des heures, on va parler pendant des heures, monsieur. Hein.
Vas-y, c'est fait pour. Hein. Cette antenne, elle est pour vous, justement.
Il y a beaucoup de gens qui veulent... Attends, je vais vous passer quelqu'un aussi, il veut parler.
Allez, vas-y.
Vas-y. Et allô?
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Salut.
Je m'appelle Amine.
Vas-y, dis-nous ce que tu as à nous dire.
Ben moi, ça fait, trois mois que je suis là. Mm-hmm. Bientôt trois mois.
D'accord.
Et ben, ouais. Et franchement, ici, c'est un truc de ouf. Hein. Il y a beaucoup de problèmes et tout. Ils ne respectent pas rien du tout, franchement.
Ils vous donnent toujours des plats périmés, parce que c'est important de le dire, ça. Ils vous donnent toujours des plats périmés?
Oui.
Ouais, parce que il est pas normal que il est pas normal que vous mangez des plats qui sont pas
Non, franchement, la vérité est ici déjà, c'est interdit les caméras. Pourquoi?
Ouais.
Pour ça, il pas besoin de faire des photos, un film ou quelque chose. Pour ça, ils tapent les gens. Moi, j'ai regardé beaucoup de fois, ils tapent les gens. C'est un truc d'ouf, ils cassent les jambes. Mais il fait truc bizarre avec nous. Il respecte même pas. Allez, vas-y, tourne ton pied. Je sais pas comment il parle avec nous, t'as vu. Il respecte même pas, non. J'ai nous, c'est pas un animal, nous. Nous, voilà, c'est comme vous. Voilà, je respecte moi, on respecte vous. Voilà, c'est tout. Mais il fait truc bizarre avec nous. Franchement, c'est pas comme ça, les lois françaises. Moi, ça fait 11 ans ici, je connais comment ça se passe, les lois françaises. Quand on parle pour la loi, et toujours, il dit quoi? Il dit, y a pas les lois françaises. Ça existe pas. Ça veut dire quoi, ça?
Bah ça veut dire que les lois, ils les utilisent contre nous, mais c'est jamais pour nous, tu vois. Donc, les lois, je suis d'accord avec toi, elles existent, mais pas dans le bon sens, quoi.
Oui, ça existe, mais quand on parle avec le centre et le chef, ou je sais pas c'est qui, bah, ils disent toujours, non, t'as pas les lois, t'as pas ça, t'as pas de papier, t'as pas les droits, tu marches dans la rue, toi.
Après, le truc, c'est que là où dans les centres de rétention, comme dans les prisons françaises, tu sais, les gens qui y travaillent, ils sont chez eux. Nous, on n'est pas chez nous là-bas. C'est pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que ils essayent de pousser les personnes qui y sont à bout. C'est-à-dire qu'ils vont mal nous parler, ils vont frapper. Les caméras, ils vont fonctionner que quand ça les arrange. Tu vois, ça veut dire que
il y a les caméras déjà, et pas partout.
Juste ouais.
Pour les services, nous, c'est tout.
Mais les caméras, elles sont faites pour vous surveiller, voilà. Vous, pas pour les surveiller eux de ce qu'eux vont faire sur vous.
Voilà, c'est ça. Comme ça, les gens, ils ne font pas de trucs bizarres ou quelque chose.
Exactement.
Ici, il y a beaucoup de corona déjà. Déjà, il y a beaucoup de corona.
Comment ça se passe si vous
toujours, il y a 5, 6, 7, 8 par jour, et pas. À cause de corona, t'as vu? Mais il n'y a pas la chaîne, on souffre, franchement.
Ouais, je sais.
Franchement, on souffre, il y a des corona, il y a beaucoup de problèmes ici, franchement, c'est pas normal, ça, franchement. On n'est pas bien, il y a des gens, ils ne prennent jamais de la vie, moi je regardais les gens ici, et jamais de la vie, ils prennent des médicaments, ici, ils donnent des médicaments à n'importe personne.
Ouais, parce que, en fait,
Et moi je le vis, les gens, ils déchiraient, ils prennent les larmes, ils déchiraient. C'est un truc doux, jamais je vais vivre ça dans ma vie, moi.
Il y a des gens qui là, ils se tranchent.
Bah oui, peut-être que tu n'as pas vu comment il y a quelqu'un, normalement, hier. Les lois, normalement, c'est les lois, et le juge m'a donné pour lui, il va sortir 21h. 21h, il sort. Normalement, c'est effet libéral, 21h. Il m'a laissé, lui, jusqu'à 21h20. Après, il m'a dit quoi? On y oublie, toi. Lui, il m'a fait quoi? Il me met un corps, il est monté en haut, il me met un gourde, et bah voilà.
Il a besoin
de faire un truc bizarre. J'ai commencé à 21h, je sors. Et vous, on respecte pas moi. Tu vas le sortir 21h20.
Okay. Mais ils l'ont laissé sortir quand même.
Ouais, mais c'est un truc doux.
Ouais, ils ont juste pour l'histoire de le pousser à bout, ils ont fait durer le plaisir, on va dire.
Ouais. Ben, je te passe, Taïf. Voilà.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Oui, madame.
Oui, bonjour.
Oui, madame, en fait, je voulais vous dire qu'ils ne nous donnent pas tous les jours des plats périmés, mais la plupart des temps, ils nous donnent des plats périmés.
Ouais.
Et ils nous réveillent à 5h du matin. Des fois, ils cherchent quelqu'un, alors que c'est un métier dans les chambres. Il est dans quelle chambre? Ils font ça exprès pour nous fatiguer. Pour nous fatiguer. Ils nous laissent pas... On fume les cigarettes. Ils nous laissent même pas allumer avec les briquets. Il n'y a même pas de briquets. Normalement, on a le droit de fumer.
Ouais, bien sûr.
On a... En plus, madame, il y a un mec là, moi, parce qu'il m'a chargé. Oui, madame. Ils nous laissent des briquets pour 40 personnes. On dort 6, 7 par chambre.
Il y a la gale, il y a le Covid, il y a les policiers, ils nous ramènent dans une chambre, il n'y a pas les caméras, ils nous frappent. Moi, j'ai des blés ici, ils m'ont en garde à vue, ils m'ont laissé en caleçon pendant au moins 12 heures. Ils m'ont pris pour un terroriste alors que moi je suis un citoyen, j'ai jamais commis un crime, j'ai jamais volé, j'ai jamais fait quelque chose, je suis sans papier.
Il y a quelqu'un, on veut parler deux minutes.
Madame.
Ouais, vas-y.
Et toi, ça fait combien de temps que tu es là-bas, au CRA?
Moi, ça fait 50 jours que je suis là, j'ai chopé le corona pendant 17 jours.
Ça fait 40 jours.
Et quand quelqu'un a le corona, alors ça se passe comment?
Il y a beaucoup de gens ici qui ont le corona.
Et comment ça se passe quand quelqu'un a le corona? Qu'est-ce qui se passe alors?
Il y a 7 là, je vois une chambre là, il y a 7 personnes là. Il y a des punaises de lit. Il y a des gens qui dorment par terre. Il y a la saleté. Il y a les cafards.
On n'est pas des criminels, madame. On n'est pas venus pour vérifier notre situation. On n'a pas fait la prison, on n'a pas fait ça. Il y a un Roma, madame,
ils sont ici avec leur papier, avec leur famille, avec tout. Il y a un Roma, il est ici. Voilà, madame, journaliste, je vous passe un Roma. Il y a un Roma, madame.
Ouais, madame, en fait. Voilà, ici on vit dans la misère. Personne ne s'occupe de nous, on vit dans la misère. 7 par chambre, 6 par chambre. À manger, ils te donnent tout ce qu'on mange aujourd'hui, ils te donnent dans 2-3 jours aussi. À manger, c'est la même chose. Les gens, ils sont pleins. Les douches, elles sont sales. Les toilettes, elles sont pas propres. Les punaises dans les lits. Moi, j'ai vécu ici depuis 2006. J'ai mes papiers et on m'a enfermé ici. Tout le monde va pas bien. L'infirmerie, c'est juste avec rendez-vous, réparation, il n'y a pas. C'est vraiment la saleté.
Oui, madame. D'accord, monsieur Lagie, elle a pareil. Madame, ça se passe toujours mal, surtout avec les policiers, ils nous réveillent à 5h du matin, je ne sais pas pourquoi, des fois ils cherchent Mamadou, des fois ils cherchent Banana, des fois ils cherchent Patrick, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, c'est noté, moi je suis dans la chambre 50, hier ça a pris dans ma chambre, c'est personne.
Et est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des expulsions qui ont repris dernièrement et s'il y en a beaucoup?
Si, il y a des expulsions, madame, maintenant ils font des tests. Ils font des tests aux policiers, comme ça sont négatifs, ils ramènent, ils expulsent les gens. Vous avez compris? Ils font des tests.
Il y a un socialiste qui s'appelle la femme. Normalement elle est pour nous, mais elle est contre nous. Et contre nous, elle travaille pas avec nous, là, une socialiste qui s'appelle la femme. Elle fait rien pour nous, elle fait qu'au stress. Tu vas en prison, tu vas rentrer à ton pays, elle fait rien, madame. Non, on est beaucoup ici. Il y a des corona, il y a des maladies, madame, il y a de la grippe, il y a beaucoup de trucs, il y a que de briquets. Il y a que de briquets sur le centre, il a l'air de la même briquet, madame, il n'y a même pas de gel à côté, madame. Non, ici, on galère, vraiment, on galère, madame.
Je m'en fous de la manger,
on a fait la grippe ici. La greffe, madame, ça fait 17 jours que quelqu'un, elle a fait 17 jours, elle n'a pas mangé, personne n'a parlé avec lui, personne ne l'a expliqué. Non, on galère, elle croit, non, on est des chiens ici. Elle croit, non, comme des chiens, on est comme des chiens ici, madame. Oh, monsieur, tout ce qu'elle écoute là.
Oui, madame.
Ouais.
Madame, oui, allô.
Ouais. Juste un tout petit truc.
C'est monsieur Lagélie à l'appareil. Madame, franchement, hier aussi, il y a un Romain. Il voulait aller à l'infirmerie, il l'a enfermé pendant 24 heures dans une cellule d'isolement, je ne sais pas pourquoi.
Sans rien faire.
Voilà, il parle avec vous.
C'est trop mal, il nous traite trop mal ici, ils nous ont démangé trop mal. Les policiers ici sont racistes avec nous parce qu'on est des étrangers, c'est pas normal, on est des humains. Il faut respecter. On n'est pas des criminels, on n'est pas des terroristes, on n'est pas des rien. Il faut qu'ils nous libèrent d'ici. C'est pas bien, qu'est-ce qu'ils font avec nous? Ils jouent avec les personnes ici. On nous traite comme des animaux. Ici, la direction, ils ne font rien. La police, ils ne font rien. Ils sont pas les couilles de nous. Mais il faut qu'ils fassent un truc. Qu'on sort d'ici, parce que c'est pas bien qu'ils jouent avec nous.
Faites attention parce qu'ils veulent vous pousser à bout et rentrez pas dans leur... Dans leur, dans leur
Ils ont quelqu'un d'autre, madame.
Il n'y a pas de souci, donne.
Allô.
Allô.
Allô, ça va ?
Ça va, et toi ?
Ça va ?
Ouais.
Bonjour, madame.
Bonjour. Salut, dis-moi, vas-y. Tu veux nous dire un truc ?
Ouais, j'ai beaucoup de trucs à dire.
Vas-y, n'hésite pas.
Deux mois et quelques, je suis là.
Ouais.
Et moi, ici, j'ai déjà vu beaucoup de choses qui ne sont pas d'accord. Ici, ce n'est pas un chemin d'un directeur. Parce qu'ici, c'est. Nous, il n'y a pas un gel d'un correcteur, mais rien. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades du coronavirus. Ici, nous moi, je donne des petites salles. Nous, il y a beaucoup. Mais puisqu'il y a beaucoup. Et en plus, elles nous ferment les fenêtres, elles sont vissées, fenêtres, même pas.
Ouais, en fait, tu es en train de nous dire que.
Nous cherchons d'aide, et on sont tous celles ici qui travaillent, et ne font rien pour nous ici. Et des gens qui font grève ici, 17 jours de grève, il n'y a personne qui fait rien.
Grève de la faim.
Et des personnes qui voulaient se suicider ici, et des gens qui voulaient se suicider ici. Mais entre nous, nous donne entre nous la force, parce que c'est pas bien. Parce que chacun des personnes ici, et des familles, des enfants, qui nous cherchent des aides, qui ont une personne qui ont besoin de notre situation. Ça fait longtemps que nous cherchons un moyen de trouver une situation. Parce que nous, nous cherchons un moyen de rester avec notre santé. Parce que nous, et les familles. Parce que quoi, même si notre famille ne vient nous visiter, si nous est contaminés, nous pouvons contaminer notre famille aussi. Parce qu'ici, nous rien. Rien.
Ouais, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a aucune prévention pour le Covid, que les pièces, elles sont pas, les portes, les fenêtres sont fermées, donc il n'y a pas d'aération déjà dans ces lieux.
Que tout le monde mange dans la même salle à manger enfermée.
C'est ça. Qu'il n'y a pas de gel, il n'y a pas de.
Bien, mais je vais pour vous dire vérité, moi je parle avec vous avec toute sincérité, parce que moi j'ai 6 enfants, et moi je suis venu ici, et c'est la première fois que je suis venu ici. Mais ici, ça passe choses de ouf, choses que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ici, ils interdisent le téléphone avec caméra, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils nous montrent les choses que nous vivons ici.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est sûr.
Complètement d'accord avec toi.
Du coup, là, je suis désolé parce qu'on va devoir laisser l'antenne parce qu'on va recevoir un autre appel. Et moi, je voulais juste préciser que quand vous parliez de l'ASFAM et de l'association là, de centre social, c'est une association qui est payée par l'État, soi-disant pour faire du soutien juridique et vérifier, surveiller les droits des prisonniers et prisonnières, des prisonniers à Vincennes.
Ouais,
et qu'en réalité, ce n'est pas le cas.
Moi, j'ai déjà connu un centre social d'or. Son social, si tu n'as pas de maison, il t'aide pour maison.
Mais là, je parlais de l'ASFAM, qui est l'asso.
En fait, les associations qui vous font voir, c'est des associations qui vont dans le sens des centres de rétention et pas dans le vôtre. C'est ce qu'on essaie de.
Ça veut dire ici, il n'y a pas une personne.
C'est pas une valeur sûre. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu comprends ?
Ça veut dire. C'est... Moi, je ne demande rien. Moi, je demande juste de l'aide pour voir notre situation. Parce que nous, on ne pouvons pas faire rien. Si tu n'as pas à nous parler avec les radios, les BFM ou quelque chose comme ça.
On vous souhaite un maximum de force et d'énergie là à venir. Voilà, n'hésitez pas à la semaine pro et tout si vous voulez rappeler tout ça. Plein de force à vous en tout cas. Soyez hyper fort et puis on se tient au courant en tout cas. À vite.
On est avec vous.
Force à vous.
Moi, je
suis désolé les gars, va falloir qu'on y aille parce qu'on attend un coup de fil juste derrière. Plein de force à vous et puis de toute façon on se tient au courant. Ok, je vais devoir vous couper. À toutes, ciao, soyez forts. Donc on va passer un petit coup de zik.
Ciao. Pourquoi?
Il est 10h moins quart, je fume une clope devant le bloc. Je fais la bise au guetteur, puis on part inspecter le hall. C'est bon RAS, pas de candé dans le vide ordure. J'ai vérifié le toit et bloqué l'accès à la cave. Il est 10h pétante, le G arrive avec la sacoche. Il me dit que je suis sur 6000, en peu en shit et en coque. C'est mon pote, je lui fais confiance, mais tout le monde aime se défoche. Donc on recote mon ami, parce que les trous c'est pas fastoche. Je croise le petit du deuxième qui passe avec son ballon. Je lui donne 10 euros et marque bouffe sur la feuille de compte. Petit, prends-moi un café, un paquet de feuilles, un coca. Garde la monnaie pour toi, demande au guetteur qu'est-ce qu'il veut voir. C'est bon, je suis prêt pour mon TP. Mon tel est à 100%, mais là c'est son bienfait. Chalak, je finis pas aux arrivants. Et voilà notre premier client, un putain de toxico. Avec ses mains gonflées et puis la moire, il a plus de chico. Il veut la pureté à Mexico.
Ouais, t'inquiète, c'est de la frappe, c'est de la frappe.
Si chez toi le client est roi, ici le client est clean. On t'arrange minimum si tu prends 500 en 10. Si chez toi le client est roi, ici le client est clean. Poto, y'a pas d'arrangement possible, à part si tu prends 500 en 10. Tous les jours j'fais TP, tous les jours j'fais TP. Tous les jours j'fais TP, tous les jours j'fais TP.
Cache pour les bang bang.
Tous les jours je fais TP. Tous les jours je fais TP. Mais un jour on va péter. J'ai un client, j'entends Afra dans la foulée. Tu connais la devise pour ton faux vide étalé. Je cavale à la patte, on fait ma double tour. C'est là que j'ai rien fait tomber dans la cage d'escalier. La vie du charbon, c'est l'adrénaline. J'aperçois une jolie cliente qui fait la file. Je lui demande son snap, elle me fait la maline. Ok, c'est rien, je lui serre la barrette la plus fine. J'ai plus de bœufs de shit, faut qu'on me ravitaille. Je préviens le gérant juste avant qu'il se taille. Je donne la paye au guetteur, il a juste fait mi-temps. Et moi je fais temps plein parce que j'ai trop les dents. Le clean s'y fait le fou, en plus il paye en pièces. Sur ma vie je vais lui servir un 30 à 50. À dire que dans le four c'est moi le chef d'orchestre. Si y'a Haja, c'est moi qui assume les conséquences. Si chez toi le client est roi, ici le client est clean. On t'arrange minimum si tu prends 500 en 10. Si chez toi le client est roi, ici le client est clean. Poto, y'a pas d'arrangement possible, à part si tu prends 500 en 10. Tous les jours j'fais TP, tous les jours j'fais TP. Tous les jours j'fais TP, tous les jours j'fais TP.
Cache mon bang bang.
Tous les jours j'fais TP, tous les jours j'fais TP. Tous les jours j'fais TP, mais un jour on va péter. Il est minuit, j'fais les comptes. Et je rends la sacoche, toujours pas les menottes, donc demain rebelote. Il est minuit, je fais les comptes, et je rends la sacoche, toujours pas les menottes, donc demain rebelote. Tous les jours je fais TP, tous les jours je fais TP. Tous les jours je fais TP, tous les jours je fais TP.
Cache pour les bang bang.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19e et pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Mais il me semble qu'il y a quelqu'un en ligne.
Allô ?
Allô, oui.
Salut.
Salut.
Salut. Alors, j'ai pas l'impression de t'entendre trop dans le casque. Voilà.
Non, mais... tu m'entends pas là.
Si, on t'entend très bien, mais c'est parce qu'il est sourdingue.
Et donc, déjà, voilà, on t'appelle pour parler un peu de ce qui s'est passé à Bure. On en a déjà parlé un peu ces derniers temps. Déjà, est-ce que tu veux nous rappeler un peu c'est quoi le projet qui date depuis une vingtaine d'années là, qui a été initialement signé par Voynet. Nous rappeler un peu c'est quoi ce truc là d'industrie autour du nucléaire et tout. Allô?
Ah oui, ouais. Je suis là, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui essaye d'appeler en même temps dessus.
Ah, je sais pas trop ce qui se passe. Bon, voilà. Mais écoute, on parle de surveillance et tout ça, donc quand il y a ce genre de merde sur les téléphones, on sait à quoi c'est dû. Voilà, mais c'est peut-être les potos tout à l'heure qui voulaient un peu nous rappeler et tout. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu c'est quoi le projet d'enfouissement à Bure?
et les luttes qui en ont découlé.
Ouais, bah, entre amis, c'est toujours compliqué parce qu'une lutte, c'est long et surtout quand il y a 25 ans derrière, on ne sait jamais par où prendre le bout. Mais concrètement, en fait, c'est un vaste projet qui a pour but de faire 500 km de galerie à 300 km de galerie à 500 mètres sous terre dans le sud de la Meuse, donc dans un coin où il y a 6 habitants au kilomètre carré, ce qui a fortement aussi fait que ça a été choisi comme coin. Donc dans les années 90, ils ont voulu faire une espèce d'énorme centre parce que pendant longtemps on a fait des déchets, on les a jetés dans la mer, on les a emmenés en Russie, enfin. En gros, on les a mis sous le tapis et puis à un moment donné, on n'a plus pu faire ça. Donc il a fallu commencer à penser à une alternative entre guillemets. Et donc l'alternative, c'est de creuser un grand trou et tout mettre dedans, en fait, les déchets nucléaires de l'industrie nucléaire. Donc ce qu'on appelle les déchets ultimes, c'est les déchets les plus radioactifs. Donc c'est 3% des déchets radioactifs et qui sont les plus radioactifs qu'on puisse produire, ceux qui viennent des cœurs des centrales, en fait. Et donc l'idée, c'est de creuser un grand trou, de les mettre dans un sol où ça va dormir 100 000 ans, et de boucher le trou, quoi, en gros. Donc du coup, ça, évidemment, ça n'a pas du tout plu aux populations locales dans les années 90, de quatre endroits où ils ont lancé l'idée. Donc il y a eu des mouvements de contestation assez intenses, avec des populations qui ont manifesté partout. En fait, on parle souvent de Plogoff, mais il s'est passé la même chose dans plein d'endroits en même temps dans les années 90, où les populations, en gros, elles ont chassé à coups de pierre les gendarmes en disant « on veut pas de cette merde chez nous ». Et du coup, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont dit « on va faire des laboratoires ». C'est juste des laboratoires pour étudier les sols, mais ça veut pas dire qu'on va en fouiller à cet endroit-là, c'est juste pour étudier plusieurs sols possibles. Bon, les gens, ils n'ont pas été naïfs sur ce coup-là, et donc ils ont rejeté trois des centres, et le dernier qui est resté, c'est Bure, en fait.
Ouais.
Et parce que à Bure, il y a eu aussi une contestation massive de la population locale, et dans les années 90, il y avait des milliers de personnes qui défilaient dans les rues ici. Et après ça, du coup, ça a quand même été signé parce que les élus locaux, fortement séduits par la grosse enveloppe qu'on leur signait derrière, c'est-à-dire que depuis, le département touche 30 millions d'euros par an de perfusion pour un département qui est sinistré par la désindustrialisation. Donc c'est tous ces bassins industriels où les populations, y a 15% des gens qui se sont barrés en 20 ans, beaucoup d'entreprises familiales et les entreprises de sidérurgie qui ont fermé. Donc du coup, c'était un peu facile de dire aux élus, on va vous verser de l'argent pour vous permettre d'être réélus. Et en même temps, nous, on perfuse le territoire un peu artificiellement. Et en échange, vous acceptez la plus grosse poubelle d'Europe, quoi.
Et y a eu un peu un moment de rupture, donc là ça se passe sur une vingtaine d'années, voilà. Ce truc, voilà, et donc ils vont commencer des phases de travaux.
Et donc du coup, début des années 2000, ils font des travaux, assez vite, ils font un petit laboratoire, un espèce de truc, bon je dis petit, mais c'est déjà 200 hectares. Il y a un paysan qui vend, ils ont juste besoin de soudoyer un paysan et lui achète 200 hectares d'un coup à prix d'or. Et là-dessus, ils font un laboratoire. Ils creusent un puits vertical et ils disent étudier la terre. Bon, évidemment, personne n'est naïf. On sait, 5 ans plus tard, ils annoncent que ça va devenir un centre d'enfouissement. Donc, et durant 15 ans, il y a une espèce de phase un peu larvée où il y a des enquêtes publiques, des concertations, des discussions avec les acteurs du territoire, entre guillemets, et où ils font leur bonhomme de chemin en extorquant les terres. Je dis extorquer parce que ils vont chez les, en gros, ils vont pressuriser les propriétaires en leur disant soit tu vends maintenant et on est sympa, en fait on te le rachète et en plus on te donne des terres en échange. Bon, des fois les paysans ils se retrouvent avec des terres à 5 km et si tu prends les terres, tu seras pas exproprié quand on aura le droit d'exproprier, en fait. Ouais. Donc c'était vraiment de l'extorsion, sauf que personne n'a jamais témoigné de ça ouvertement. C'est des récits qu'ont les paysans, c'est l'omerta totale, en fait, pour l'acceptabilité. Elle verrouille un territoire. Donc il y a eu une contestation pendant toute cette période-là. Il y a eu des festivals, il y a eu des campements, il y a eu des contestations. Il y a eu même on a tendance à dire que la contestation, la confrontation, elle a commencé en 2015. Quand nous on est arrivé avec un projet de campement en 2015, en fait elle était déjà là depuis des années. Il y a déjà eu des moments où il y a eu des confrontations avec les gendarmes, entre les paysans et les gendarmes, mais c'est vrai que ça n'a jamais atteint le niveau que ça a atteint en 2015-2016. Donc là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'entreprise, d'un coup, elle sort de sa phase larvée Et puis, elle a échangé un bois à 6h du matin avec une municipalité. Donc, il y a une espèce de vote qui s'est fait en secret à 6h du matin. Et elle a commencé à raser les arbres. Et donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, concrètement, à ce moment-là, nous, on était... moi, je suis arrivé vers cette période-là un peu avant. On avait fait un campement l'été d'avant. Et nous, on était vraiment sur un truc de... on s'installe, on bâtit une lutte sur la durée, on a le temps... Et puis là, l'entreprise, elle nous prend de court, elle fait, elle rase des arbres tout de suite. Donc, bah, il se passe ce qui se passe dans ces cas-là, en fait. Si, soit tu te mets entre la machine et les arbres, soit il n'y a plus d'arbres, en fait. Donc, le bois était occupé, ça a changé la phase de la lutte et énormément de gens ont été, ça a fait venir beaucoup de gens d'un coup parce que ça a popularisé aussi la lutte. On était sur une lutte d'occupation. Enfin, c'est simultané aux occupations de Sivens, Notre-Dame-des-Landes, Roibon, etc. Donc ça faisait écho, en fait, une occupation de forêt. Donc d'un coup, il y a eu beaucoup de monde qui arrivait.
Et là, la stratégie qui va être mise en place, elle va être un peu différente par rapport à ce qui a pu se passer.
Là, on change complètement, ouais. Là, on change. On avait un truc invisible, avec une police invisible, avec des contrôles ici et là sur les routes, mais un truc de surveillance discrète. Et là, d'un coup, ça devient ostensible. Le ministre de l'Intérieur, il dit, on laissera pas faire une ZAD à Bure. Et tac, à partir de là, printemps 2017, là, t'as un vrai tournant qui s'installe. Tu as des flics omniprésents. Les sénateurs de la Meuse demandent à ce qu'il y ait en permanence un escadron, ce qui va être accordé à l'été 2017. Donc, il y a un escadron depuis cette date, depuis 2017. Il y a un escadron en permanence. C'est 100 gendarmes mobiles. Relayent par 50 jours et nuit depuis cette période sur place et qui sont logés par l'ANDRA dans son laboratoire. Quoi. C'est une convention avec l'ANDRA, avec la gendarmerie nationale.
Et est-ce que tu peux décrire un peu... vas-y, excuse. Non, mais est-ce que tu peux décrire un peu, en fait, parce que, enfin, on parlait pour préparer la discussion là, que en fait c'était assez différent, en fait, de, on connaît pas mal ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, où ça a été, en fait, la stratégie a été plus sur un territoire assez restreint et tout ça. Là, ça va être un quadrillage plus fort et un peu différent.
En fait, de base, t'as un truc, on est sur un terrain qui est très spécifique. C'est un peu comme les questions d'immigration. Il y a le nucléaire, il y a l'immigration et il y a le nucléaire qui font l'objet d'une surveillance très importante et qui sont vraiment identifiés comme des points sensibles à surveiller attentivement. Et les militants anti-nucléaires ont le droit à ça depuis les années 70. Et là, du coup, il y avait une surveillance où on voyait des gens avec des téléobjectifs, des gens qui prenaient des photos de loin sur chaque petite manif, etc. Là, on passe sur un truc plus du tout de loin. T'as des agents de renseignement dans des voitures banalisées, des dusters, et qui font des tours. T'as des vigiles cagoulés qui font des tours avec des GoPros à l'arrière de pick-up. T'as des gendarmes mobiles qui quadripent un peu les routes au fil des mois. Donc il y a vraiment un truc ostensible de quadrillage du territoire. Et là, on rentre dans une phase de contrôle systématique. C'est-à-dire, nous, on sait, on a vu qu'il y avait des trombinoscopes des opposants qui sont faits, même si ça n'a jamais pu être prouvé, parce qu'on n'a jamais pu mettre la main sur un trombinoscope, mais on les a aperçus. Et en fait, ils ont une liste des opposants notoires. Et à chaque fois qu'une des bagnoles identifiées comme opposante, soit sur du délit de faciès, soit sur reconnaissance des plaques, passe, et ben il y a un contrôle pendant des mois, ça a été ça, contrôle systématique. Donc du coup, ça provoque immédiatement des confrontations, des moments où tu finis par insulter, il y a des insultes qui fusent, des gens qui se rebellent, donc ça fait des rébellions, des outrages, des contrôles. Quelqu'un qui est arrêté avec un opinel, ça devient un transport d'armes, et tu vois. Et donc ça envoie tout le monde au tribunal pendant des mois. Pendant des mois, t'as ce truc qui va s'installer envoyer progressivement des dizaines de personnes au tribunal.
Et c'est un truc de ouf, dire, enfin voilà, quand là on a préparé le truc, donc sur un site qui s'appelle Burburbur, vous avez tous les procès qui a eu lieu, et je m'étais dit pour préparer l'émission que j'allais les imprimer, ce qui racontait tout ça, 84 pages, ça fait,
Ouais, y a, y a, y a, y a... Euh, c'est 60 procès en 2 ans. Quoi.
C'est ça, donc c'est vraiment un truc de ouf. On a déjà eu des personnes, Chris qui était passé ici, par exemple. On avait eu pas mal d'autres personnes et tout ça. Et voilà. Mais donc, il y a une vraie stratégie qui est un peu différente, en fait, qui va être vachement plus judiciarisée, en fait, dans
là,
le rapport.
Du coup, tu refuses une identité, hop, direct, tu casses prison. Donc, c'est comme ça que Chris et d'autres personnes ont fini en prison. On a eu 4 incarcérations au total. L'autre volet de ce truc de judiciarisation, c'est les interdictions de territoire. Donc progressivement, les gens sont frappés d'interdictions de territoire en préventif. Tu vois, c'est un contrôle judiciaire en attente de leur procès. Quelques mois plus tard, on renvoie des comparutions immédiates avec des tas de comparutions immédiates. Mais à chaque fois, t'as en attendant une interdiction de territoire de plusieurs mois de revenir en Meuse. Et parfois même en Haute-Marne, donc c'est 2 départements entiers d'interdiction. Donc évidemment, ça élimine des gens physiquement sur le terrain au fur et à mesure. Tu vois, on écrème pendant des mois les gens. Et puis, il y en a eu 26 des interdictions de territoire comme ça qui sont tombées. Donc il y a ça, il y a les gens qui sont après condamnés à ne plus, qui ont une interdiction de territoire durable de 2 ans, donc il y a les autres, ceux qui sont condamnés à quitter le territoire pendant 2 ans, c'est même plus un contrôle judiciaire, là, t'as plus le droit de revenir pendant 2 ans, y compris avec des attestations, des tas de preuves, des garanties de représentation que les gens avaient quand même quelques attaches localement, mais ça n'a pas tenu, ça n'a pas suffi en fait. Donc voilà, ça c'était un peu le climat. Et puis de l'autre côté, t'as ce quadrillage policier qui fait que les contrôles systématiques t'isolent de la population. Les gens ont peur de te parler, les gens ont peur de te fréquenter et ont peur d'être contrôlés en fait. Donc il y a un truc qui s'installe qui est ce que je comparais quand je te disais tout à l'heure la contre-insurrection, c'est un peu les logiques. Les logiques sont similaires, même si c'est pas du tout la même intensité, mais la logique est similaire. C'est le quadrillage du territoire, isoler la personne subversive dans le territoire et la soumettre à un contrôle systématique pour l'afficher, la contrôler et la punir si jamais elle résiste, quoi.
Et
ça, évidemment, ça fait partir beaucoup de gens, ça a amené beaucoup de gens aussi à quitter, à ne plus venir par peur d'être touché par cette répression. Donc tu deviens un peu un pestiféré quand même là. C'est le côté dur de la répression quand t'as l'impression d'être un pestiféré et que les gens t'appellent plus ou qu'ils viennent plus te voir parce que tu portes malheur, non, tu risques d'attirer le mauvais œil en fait. Et ça s'est passé pendant pas mal de mois quand même. Il y a eu quand même tout un truc d'évidement. Et évidemment, ça exacerbe aussi les tensions internes, les fatigues, les gens qui perdent leur... Enfin, au moment de l'expulsion du bois, il y a eu une opération d'expulsion très médiatisée avec toutes les grandes chaînes nationales. En même temps que NDDL, à peu de choses près, il y a eu l'expulsion du bois Le Jus. Il y avait 50 personnes à Bure et 500 gendarmes en face, quoi. Donc après ça, les gens, pas mal de gens avaient des cabanes dans la forêt, etc., sont acculés à rejoindre les logements qui sont insuffisants pour accueillir tout ce monde-là. Donc il y a un truc où les gens sont traumatisés, en plus, sont les uns sur les autres. Donc évidemment, ça a créé une période très sombre pendant plusieurs mois, en fait. Où finalement ça a été assez difficile d'être encore collectif, de pouvoir encore se défendre et pouvoir encore construire des choses collectivement dans des contextes où t'as un peu un sentiment d'être assailli, quoi.
Et donc il y a eu vraiment énormément de procès c'est pas pour faire des différences entre tout ce qui s'est passé et tout ça, mais il y a eu aussi ce qui va vous attaquer, vous particulièrement, où ils vont vous mettre une association de malfaiteurs.
Et là ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as cette longue phase de 6 mois de judiciarisation absolue, arrive le haut de gamme, c'est-à-dire vraiment le filet, c'est le truc qui va finir de transformer tout le monde en présumé coupable, parce que c'est assez inédit, parce que nous, au niveau de Bure, on se retrouve avec une association de malfaiteurs qui est ouverte suite à une tentative, une intrusion et un départ d'incendie dans un hôtel à côté de l'Andra. Donc malgré le fait que sont considérés comme potentiellement responsables une poignée de personnes, cette personne, officiellement sur les constats, etc., c'est toute la lutte qui est considérée immédiatement comme présumée coupable d'avoir commis les faits. Donc, ce qui va permettre, ce qui va ouvrir un champ de dingue à un juge d'instruction qui a tout à coup tous les pouvoirs, en fait. Donc ça, c'est à partir de l'automne 2017. Et ça va permettre 20 perquisitions au total écartées sur une durée de un an, en fait, qui vont aller jusqu'à Grenoble, en Bretagne. En fait, ça va toucher énormément de monde. Beaucoup de gens vont être convoqués, interrogés au commissariat. Et beaucoup de perquisitions vont être menées sans explication. Donc on va avoir vraiment des gens, du jour au lendemain, ils rentrent... par exemple, le 21 juin 2018, ils rentrent dans 14 foyers simultanément, en fait. C'est une opération gigantesque, t'as 14 perquisitions simultanées, t'as 10 gardes à vue qui sont prononcées, t'as une dizaine de personnes qui sont interrogées dans la même journée en plus, et sur les 10 gardes à vue, il y en a 8 qui sont poursuivis, t'en as 7 qui sont poursuivis, 3 qui sont, un qui est mis hors de cause et 2 qui sont en témoin assisté. Et ça, ça va durer après, immédiatement après, contrôle judiciaire, interdiction de se voir, etc. Et ça, ça va durer 4 ans pour nous. Et vont s'ajouter encore 2 autres personnes, puis encore 2 autres. Donc on va arriver à 9 personnes poursuivies au final.
Ouais. Et donc là, en fait, ça permet aussi pas mal de renseignements, en fait. Parce qu'en mettant le truc d'association de malfaiteurs, en fait, ça donne juridiquement, en fait, enfin, comme tu le disais là, tu vois, qu'il y avait eu un trombinoscope que vous n'avez jamais récupéré tout ça, mais qui en fait se retrouve à être illégal parce que c'est un fichier spécifique.
C'est un espèce, il faut voir ça comme un filet, en fait. Ils jettent un filet sur toute une lutte, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, mais du coup ça leur permet de faire des tas de perquisitions et tout ce qu'ils trouvent est à charge, en fait. Donc ils resserrent le champ progressivement, ce qui fait que les faits poursuivis au départ, personne n'a jamais été mis en cause sur l'hôtel restaurant, par exemple. Par contre, on a été poursuivis sur d'autres faits qu'ils ont établi, entre guillemets, c'est nos participations à des manifestations plus tard où il y a eu des violences contre la police. Et essentiellement, on est poursuivi principalement pour une manifestation qui a eu lieu un mois après les faits et sur laquelle il y a eu des affrontements avec la police et sur laquelle un certain nombre d'entre nous sont poursuivis. D'autres sont poursuivis sur le Bois-le-Jus, sur des perquisitions dans le Bois-le-Jus. Enfin, c'est un gros fourre-tout qui va permettre de mener des perquisitions à gogo, de saisir les ordinateurs, et on est à une centaine de téléphones, une quarantaine, cinquantaine d'ordinateurs saisis, une masse de papiers. Enfin, ils sont venus avec un camion, en fait, un semi-remorque qu'ils ont rempli à ras-bord, en fait. Et ça, c'est titanesque, parce qu'après, ça, à côté de ça, du coup, ça déclenche des écoutes à gogo aussi. En fait, concrètement, il y a plusieurs dizaines de lignes qui ont été mises sur écoute. T'as des milliers d'heures. Ça a été mis bout à bout. Ça a été calculé par les journalistes de Mediapart. Il y a 16 ans d'écoute mise bout à bout, en fait. Si tu fais en cumul, ça fait 16 ans d'écoute si t'écoutais tout ce qu'ils ont écouté. Moi, par exemple, j'ai 5700 de mes conversations qui ont été interceptées. Il y en a que 2 qui ont été retenues à charge contre moi. Donc, c'est dire à quel point c'est un espèce d'énorme filet. J'ai été écouté pendant plus d'un an. En continu, toutes mes conversations étaient écoutées une à une et retranscrites ou pas. Donc du coup, il y a une intrusion dans la vie privée qui a été énorme face à ce truc-là. On a eu des balises sous les voitures, des IMSI catchers, c'est-à-dire vraiment une espèce d'antenne qui capte les positions téléphoniques. Donc ça a été disposé aux abords de la maison de résistance, par exemple, qui est le lieu de lutte un peu central. Et donc, aux abords d'un procès au tribunal de Bar-le-Duc, ils ont déployé cette antenne, ça capture tous les numéros de téléphone dans un périmètre donné. Donc ça, c'est des moyens énormes qui sont en théorie ceux qu'on utilise plutôt dans les affaires antiterroristes. Sauf que là, ils ont été l'assaut de malfaiteurs, ça a été un peu le passe-droit pour le juge d'instruction pour tester un peu tous ces data électroniques, en fait.
Et donc ça, c'est cette enquête, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, cette surveillance, en tout cas, elle a duré pendant plusieurs années. Voilà, et il y a eu le procès qui s'est déroulé au début de l'été, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et là, vous avez mis en place une défense collective. Est-ce que tu peux, enfin voilà, donc pour rappeler un peu les chefs d'inculpation qu'il y avait, donc il y avait ce gros truc d'association de malfaiteurs, mais il y avait aussi des manifs non déclarés, enfin voilà, des trucs qui sont quand même assez banals.
Des fusées qui ont été trouvées dans des lieux, des fusées d'artifice, enfin, t'as eu une construction où à la fin, t'as l'impression, enfin, quand tu regardes le truc, on a l'impression d'avoir monté un réseau de crimes organisés international. Quand tu regardes leurs frises, t'as des tableaux qui font 2 mètres de large d'interaction avec, enfin, c'est vraiment des schémas de ouf, en fait. T'as des schémas comme t'en as dans des réseaux internationaux chez Interpol, quoi. Donc du coup, nous, face à ça, on a dit en fait, visiblement, vous avez pris toute la lutte comme présumé coupable, donc ça veut dire qu'on est tous coupables on est tous présumés coupables, donc en fait au tribunal vous avez juste fait un choix de 7 parmi 100, parmi 200, parmi plus, quoi. Et donc en fait au tribunal, si c'est ça, nous on va pas comparaître les 7, c'est pas nous qui nous défendons, c'est la lutte. Vous avez choisi de frapper la lutte dans son entier et vous l'avez considéré comme présumé coupable dans son entier, donc c'est elle qui va venir au tribunal. Donc c'était l'idée d'inviter largement et plus largement de juger, du coup d'inverser, de faire le procès du procès, enfin c'est le procès de rupture, quoi. C'est de dire en fait là ça va juste pas se passer comme ça, on va faire la chaise vide, en fait. Nous, on ne va pas être jugé en tant que personne, on ne va pas accepter d'être jugé nous, que vous nous isoliez parmi la lutte et qu'on doive se défendre sur les chefs, surtout qu'on n'est pas tous chargés de la même chose, pas tous avec le même casier judiciaire, pas tous avec la même trajectoire, donc il y a pas, enfin on va pas jouer ce jeu-là, en fait, ça va pas se passer comme ça. Donc ce qui se passe, c'est que du coup on a demandé à nos avocats, on a construit avec eux des plaidoiries où eux ils ont plaidé sur les chefs d'inculpation comme s'ils touchaient la lutte, et de dire ces chefs d'inculpation ne sont pas justifiés, en fait. Au lieu de le faire personne par personne, ils ont fait chef d'inculpation par chef d'inculpation. Et à côté de ça, nous, on a fait nos déclarations de départ en disant ce qu'on avait à dire d'un point de vue individuel, quand même pour exister dans ce procès en tant que personne, mais en disant à chaque fois, je suis solidaire de tous mes camarades et c'est la lutte qui vous répond, en fait. Et donc maintenant, on ne dira plus rien devant le tribunal, donc on n'a plus rien dit. Et c'est aussi pour ça qu'on est sorti manifester le premier jour, l'après-midi, avec nos avocats, pour dire, c'est pas nous qui sommes sur ces bancs, c'est la lutte, et la lutte, elle manifeste dehors, donc on manifeste tous ensemble dehors, et on sera pas sur le banc de ce tribunal et à la barre, en fait.
Ouais, donc vous avez parlé qu'une seule fois au départ, vous avez fait la déclaration que vous aviez décidé collectivement de faire, voilà, et après derrière, c'est les avocats qui sont restés, voilà, mais sur cette ligne que vous avez décrit, et voilà, et donc vous avez complètement aussi délégitimé le tribunal, et voilà, mais comme ça a été fait à plein d'autres moments par d'autres personnes qui ont été inculpées dans des procès à Bure. Et tout ça, et donc ça, enfin, c'est aussi, enfin voilà, on parle de ce procès-là en particulier, mais c'est aussi ce qui s'est mené dans d'autres moments de cette lutte identique. Et à la fin, bon, il y a quand même des condamnations qui sont tombées et qui sont assez claires sur le fait que il fallait faire tomber les gens, voilà, parce que. Donc, vu que le délit initial d'association de malfaiteurs ne tenait absolument pas, voilà, ils s'en servaient d'autre chose, quoi.
Oui, à la fin, nous, on est poursuivis. Il y a une relaxe sur plein de chefs d'inculpation. On se retrouve sur une. Moi, par exemple, je vais parler de moi là pour le coup. Je suis poursuivi pour une manif non déclarée. Avec maintien après les sommations en groupement en vue d'eux, mais c'est pas très clair de groupement de quoi en vue de quoi. En tout cas, c'est ridicule, parce qu'en fait pour ça généralement on fait une comparution immédiate dans les manifs courantes, et là on prend des 9 mois de sursis. C'est clairement comment eux ils ont essayé de finalement tenir la face sur ce truc-là, en mettant quand même des peines suffisamment lourdes pour qu'on fasse appel dans tous les cas, et pour garder la face, en fait. C'est comme ça que nous on l'interprète. Et d'ailleurs, le procureur a fait appel sur nous, donc ça veut dire qu'on est rejugé pour tout. Tous ceux pour quoi on a été relaxé, on va être rejugé en appel, en fait. Et nous, on a fait appel aussi, donc voilà.
Peut-être juste pour finir, ça te semblait aussi important de dire que comment, face à cette, toute cette, cette répression et cette surveillance, comment on essaie de s'en sortir un peu collectivement.
Ouais, bah ça c'est important de le dire parce qu'en fait on a tendance à dire oh là là mais quelle horreur, je veux pas être frappé par ça, mais en fait il y a quand même de la solidarité, il y a eu des comités dans toute la France, des gens qui organisent des concerts de soutien, enfin il y a eu une vaste mobilisation en soutien et nous derrière ça a été beaucoup de collectifs qui c'est des collectifs extérieurs aussi, c'est important quand tu sens que ça à un moment ça faiblit, que les gens arrivent plus à tenir ou tout ça, de venir de l'extérieur et de se dire au contraire c'est là qu'il faut venir en nombre et se dire soutenir les endroits et qu'il y a eu par exemple les bombes atomiques qui étaient le rassemblement féministe et antinucléaire à Bure, ça a fait un bien fou et tout le monde s'accorde à dire que ça a redonné un souffle à la lutte parce que nous on n'arrivait pas, enfin on était interdit de se voir, interdit de territoire, interdit de plein de choses et potentiellement aussi pas mal traumatisé par les choses. C'est difficile de s'organiser quand dans cette situation-là. Donc c'est vrai que s'il y a une solidarité extérieure, ça change tout. Et aujourd'hui, tu vois, c'est aussi une question de dignité de pouvoir dire vous n'avez pas du tout tué la lutte, il y a d'autres gens qui luttent, vous avez peut-être épuisé individuellement un certain nombre d'entre nous, mais la lutte elle continue, les gens sont là et il se passe des choses en fait.
Voilà. C'est important, en tout cas on continuera de le relayer et en tout cas il y a pas mal de trucs que vous pouvez retrouver sur le site Burburbur là. Et voilà, et on passe un petit salut à ce petit bip là qui nous a ennuyé pendant toute cette conversation, mais c'est de leur dire vous n'avez pas besoin d'écouter, c'est en direct sur une émission, c'est public. Merci beaucoup de ton appel, c'était juste aussi pour bien rappeler que là on a parlé. En partie, enfin principalement de ce procès, mais comme tu l'as bien rappelé, tout ça, il y a eu 60 procès qui ont été faits avec plein d'autres personnes qui ont été inculpées, qui ont fait de la tôle et tout, et que on envoie toute notre solidarité, notre force à tous ceux qu'on subit ça.
Aller sur Burburbur, lire les procès à venir et lire la brochure qu'on a fait de Rendez-moi mon slip qui réunit 60 témoignages de gens qui ont subi tout ça en fait.
Et il y a trois procès encore à venir qui étaient marqués sur le site. Là j'ai plus les dates en tête et j'ai pas ça sur. Donc c'est important. Merci encore de ton coup de fil et puis à la prochaine, on se tient au jus.
Ouais, merci à vous.
À plus, ciao ciao.
À bientôt, salut.
J'ai fait encore le tchotcho là. Oui, je me sens au téléphone. Pour rappel un peu sur toutes les news qu'on doit donner et tout, il y a pas mal. Donc demain, on sera donc là. Ce soir, les copains, ils sont du côté de Nanterre à la librairie El Rorba pour présenter le bouquin. On va aussi présenter le bouquin à Publico demain, donc c'est rue Amelot à côté de République 145 rue Amelot et ça sera à partir de 16h30 dimanche à la Parole Errante à partir de 14h30 donc c'est métro c'est rue François d'Aubergue et métro Croix de Chaveau donc à partir de 14h30 donc on continuera à présenter le bouquin donc samedi et dimanche, on sera avec pas mal de poteaux du réseau Vérité Justice.
14h.
Voilà, c'est bien de pas avoir bien préparé. mais d'avoir des gens qui ont une mémoire de fou à côté de nous. Et donc pour rappel, quand même, ce bouquin à l'intérieur, il est gratuit. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse envoyer des bouquins aux copains et tout.
Ouais, pour rappel, demain à 13h, il y a une marche à Sarcelles en hommage à Ibo qui a été tué par la police il y a 2 ans. Alors, il y a les infos sur l'émission de la semaine dernière, parce que là, je ne me rappelle pas exactement, mais en tout cas, c'est à 13h à Sarcelles. Et normalement, vous trouverez toutes les infos sur la page Vérité et Justice pour Ibo.
on avait d'autres agendas à proposer. Bon, en tout cas, il y aura cette présentation du bouquin. Là, on l'a fait principalement à Paris cette semaine, mais il y a eu à Rennes les semaines précédentes et à Avignon aussi. Et il y aura à Caen, à Saint-Thé. Enfin voilà, on continue à parler de ce bouquin. Voilà, pour rappeler que la peine de mort n'a jamais été aboli, voilà, ils sont de plus en plus en train de célébrer un peu partout tout ça. Et voilà.
Et une pensée aux familles des deux prisonniers qui sont morts à Besançon à quelques heures d'intervalle, voilà, pour confirmer que la peine de mort existe toujours en détention. Voilà.
Besançon, c'est vraiment l'enfer de plus en plus. Là-bas, c'est une tôle à l'intérieur de la ville, voilà, et ils ont complètement parqué pour qu'il n'y ait plus aucun colis qui puisse être envoyé et tout. Et de plus en plus, là, les matons prennent un poids surdimensionné à l'intérieur et sont soutenus par tout le monde au niveau local. Voilà. On va passer au coucou.
Ouais, là, je vais faire un gros coucou à Youssef, j'espère que tu nous entends toujours et que tu as bien reçu la lettre. Il fallait aussi que je passe un message à Nani de la part de Karim. Pour voilà, qu'il te passe un gros coucou, et si jamais Nani entend pas, bah, si les meufs à Fren qui entendent ça peuvent lui passer le message, dire qu'il reçoit bien les lettres, mais qu'apparemment lui, ses lettres mettent beaucoup de temps à arriver, donc voilà, il a beaucoup écrit, mais tout n'est pas encore arrivé, voilà, il te fait un gros bisou.
Karim aurait pu beaucoup écrire. Big up à toi, Karim, ouais, et à Nani aussi.
Et Nadia, ouais, du coup, j'espère que tu as récupéré ta thune depuis que tu es arrivé, puisque c'était la galère quand tu es arrivé au CNE.
On en a parlé la semaine dernière, on n'a pas trop de nouvelles actuellement, mais ça a été vraiment la grosse galère. Et c'est vraiment important, ces moments de transfert, en fait, où pendant deux semaines, on te laisse galérer comme si tu étais arrivant. C'est toujours scandaleux, quoi.
Un gros coucou à Flo aussi.
Grave, n'hésite pas à nous dire, voilà, on n'a pas trop osé lire ta lettre et tout, en sachant pas trop si elle était privée ou pas, voilà, mais en tout cas, on la lira dès que tu nous auras confirmé. Mais en tout cas, elle nous avait fait grave plaisir, on en avait parlé la semaine dernière. Voilà, moi je passe un petit coucou, enfin un grand coucou à Erwan. Je pense que K, elle passera ses mêmes coucou d'habitude à tous ceux qui se battent dans les QI, voilà, et donc je me permets de le faire à sa place, même si elle nous l'a pas demandé.
Ouais, moi je voulais passer un coucou à Jordana, c'est ta big up de ton acolyte qui est sorti, et de la Corse aussi, et j'espère que tu as pu être transféré au CD. Emma, lâche pas l'affaire et sois forte, et puis Delphine, n'hésite pas à réécrire si t'as envie. Et je voulais faire aussi un coucou un peu particulier à tous les prisonniers basques. Donc jeudi, c'est les 10 ans de la fin de la lutte armée, et de donc ce qui s'en a suivi, la dissolution de l'ETA. Et on en est quand même, en fait, à toujours des refus d'aménagement, des refus de confusion de peine pour les prisonniers basques. On est toujours à des refus de libération conditionnelle et, en fait, des peines infinies qui ne se finissent pas pour ces prisonniers. Alors que, théoriquement, depuis 10 ans, l'État français et l'État espagnol se sont engagés à négocier et à accepter le processus de paix et de pacification. En fait, c'est juste une politique de vengeance à sens unique.
Bah, tous les prisonniers de France et d'ailleurs, et puis en particulier à Ouria, à Martial, à Nani, à Karim, à tous et à toutes. Voilà.
On est rediffusé un peu sur toutes les autres, dans plein de radios et tout ça, on les remercie encore. On se retrouve la semaine prochaine, rediffusion mardi matin. Mercredi matin, 8h30, je suis vraiment mauvais aujourd'hui. Voilà.
Ben, force, courage et détermination à tous, et heureuse que tu l'avoues, et il n'y a pas d'arrangement.
À faire fondre un nègre, ouais. La chaleur est blanche et nègre intègre un shit sa pègre.
Pas de sombrero sur la croix du négro. Le clic de la porte donne le putain de tempo au héros.
J'ai shooté un, deux et le troisième juré. Tout a été négocié, tu seras bien jugé. Mais les flics t'ont cerné dans une putain de procédure. Tu seras lâché, tu la feras seul entre quatre murs. Tu sais, un bon gangster chatte autant qu'il bute. Magnan le mic et le calibre, l'activiste débute. Nègre et gunshotter, demande à donc serré. J'ai tant défouraillé, regarde maintenant j'ai payé.
Les uns les
secondes, 100 degrés ou de force. se corse.
C'est un long de douce corse.
Sans degré à l'eau, à compter les mois, les heures, les semaines.
Sans degré de force, c'est à l'ombre que tout se corse.
C'est un long
forcé, allons que tout se corse, que les vrais négros osent bomber leur torse. Prisonnier, voyagez avec votre esprit, pour qu'il reste pas éternellement dans vos souris.
100 degrés à l'ombre,
crève de chaud à l'heure de l'air.
100 degrés d'alcool,
pas évident d'tiser l'enfer.
Psychique pour cet enfer, mes frères errent chez Lucifer. Seul le matricule diffère, je laisse les tiroirs en galère.
Check mon sommaire d'avoir construit l'invincible ennemi. Soldat de l'apocalypse, c'est le war, tu crottes d'ennemis.
Pourquoi nous as-tu quitté? 6 ans tu vas manger. À la création du ménage, à quoi tu as compris? D'ailleurs ils te passent tous le bonjour.
Les négros, tiens bon. Sache que le numéro 3 sera avec toi même en prison. Ai-je raison? Maison ne voit plus l'horizon, vision fausse. Mais le prisonnier est bel et bien dans une fosse. Agis par le mal quand tu vis à l'intérieur du mal. Parole de mal à la lionesse d'animal. Ils t'ont touché mais je sais que tu vas te relever. Car ton esprit est un gilet pare-balles blindé.
E-S-A-L-B-A-L-M-A-S
à tous ceux qui sont bétons,
à tous les grands mathèses.
On progresse et avant sera le ton de la messe.
Y'a pas stress,
grâce à vous je rappe avec allégresse.
Rebelle mais négué par la censure des cons. Un mauvais garçon n'oublie pas son passage en prison.
Je me pose noir et semble le comble de l'ennemi pour le tiwa.
37 de pour
lui. 100 degrés pour moi les gars.
100 degrés à l'ombre, à compter les mois, les heures, les secondes.
100 degrés ou de force, c'est à l'ombre que tout se corse.
C'est dans l'ombre.
100 degrés à l'ombre, à compter les mois, les heures, les secondes.
100 degrés ou de force, c'est à l'ombre que tout se corse.
Pour faire des progrès, faut bien partir de quelque chose. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Si tu t'y livres, tu bannis le troisième livre.
Je sais que le monde donne envie de se flinguer, mais c'est à nous de l'accepter et de le changer.
Est-ce une vie ou une sorte de mort? Être derrière les barreaux, ne voir aucun autre décor.
On ne brise pas une statue taillée par la main de Dieu.
On ne brise pas le système avec une aide d'une arme à feu. Sache que personne ne marque, pas même ce putain de fils.